Bonjour à tous, c'est le dernier instant M de la semaine. Nous sommes sur France Inter, il est
9h40. Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Edward Snowden est l'homme qui a révélé au monde le tentaculaire programme d'écoute et de surveillance mis en place par les USA dans le plus grand secret. Il vit en exil à Moscou depuis 2013. Flore Vasseur, vous avez pu le rencontrer et vous avez pu le filmer. Bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue dans un moment très particulier. Ça s'est passé, c'est-à-dire la bascule des États-Unis à l'ère Trump. Vous réunissez autour de Snowden deux autres activistes de grande ampleur intellectuelle et vous les faites se parler sous l'œil de votre caméra, œil autorisé. Là, pour le coup, c'est pas de la surveillance. C'est comme une sorte de think tank clandestin, en fait. Ça donne un doc pour Arte, très politique, intitulé Meeting Snowden. On en parle après l'actu, la Madeleine du vendredi et Bruno Donnet. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Bruno, un vendredi matin?
Non, mais franchement. C'est Dark Face aussi, bonjour.
Ah bah oui, c'est ça. Et bah, c'est que jeudi soir, David Pujadas, c'était hier, faisait son dernier 20h.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Laisse-moi kiffer la vibe avec Shramek. J'suis pas d'humeur à ce qu'on prenne la tête. Non, 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 j'ai des soucis, donc s'il te plaît, arrête. Laisse-moi kiffer la vibe avec Shramek.
Allô, le CSA? Ouais, j'ai vu Hanouna sans chaussures aujourd'hui.
Olivier Shramek, c'est le président du CSA. Donc, petite vidéo postée hier soir par Cyril Hanouna qui a décidé de pousser la provoque jusqu'au bout. Le CSA inflige une... Mon invité, elle en revient pas. Oui, oui, oui. Le CSA inflige une interdiction de publicité de 3 semaines à l'émission Touche pas à mon poste pour manquement grave à la déontologie. Hier, la chaîne C8 dénonçait par communiqué un acharnement et déclarait prendre toutes les mesures juridiques pour se défendre. Bref, après des mois de dialogue complètement stérile avec le gendarme de l'audiovisuel, doublé d'une escalade de séquences borderline, C8 n'entend pas, mais alors pas du tout le sens de cette sanction. Hanouna s'est hier soir mis à sangloter sur le plateau, expliquant qu'il pensait peut-être arrêter l'émission avant la fin de la saison. Bref, nous continuerons de suivre le feuilleton, puisque tout ça est mis en scène comme un grand feuilleton dont nous sommes picousés au quotidien. Ce qui ne nous empêchera pas de savourer notre Madeleine du vendredi, tous à vos souvenirs de radio et de télévision. Ce matin, je vous offre un très très joli DVD, Oh les beaux jours, la pièce de Beckett, interprétée par Madeleine Renaud et rééditée par Lina. Une seule adresse pour répondre à ma question, l'instant M, tout attaché, sans apostrophe, l'instant M à radiofrance.com. Voici le jeu du jour. Il est super dur, je vous préviens, peut-être un des plus difficiles de cette année. Je vais vous faire écouter un très joli morceau. Il est signé François de Roubaix. De quelle émission de France Inter, un peu ancienne, fut-il le générique ? C'est beau, hein ?
Magnifique.
C'est François de Roubaix. À quelle émission de France Inter ce morceau a-t-il servi de générique ? L'instant M à radiofrance.com. Vite, vite, dépêchez-vous. Hier soir, je le disais, Bruno, vous avez regardé les adieux de David Pujadas aux 20h de France 2 et vous avez été frappé par un contraste entre... Par un contraste, voilà, et par la sensation d'un énorme gâchis.
Ouais, Sonia, le contraste, c'est celui que j'ai noté entre TF1 oui. et France 2, c'est-à-dire entre ce qu'on peut se permettre sur le service public et ce que l'on ne peut pas faire sur une chaîne privée. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'avant Pujadas, 16 ans de 20 heures au compteur, les deux présentateurs de JT à la plus longue longévité, la plus grande longévité, même ça évitera une petite redite, qui s'étaient fait virer, l'avaient été de TF1. Ils s'appelaient Patrick Poivre d'Arvor et Claire Chazal. Ils accusaient respectivement 21 et 24 ans de boutique. Et ils avaient bouclé leur dernier JT seul. PPDA parfaitement seul et Claire Chazal un peu moins, applaudie qu'elle avait été à la toute fin de son journal par une partie de la rédaction. Et si je vous parle de contraste, Sonia, c'est parce qu'hier, David Pujadas, lui, s'est retrouvé très, très, très entouré. Tout a commencé à 20h20 avec un reportage de l'œil du 20h qui s'est terminé comme ça.
À l'œil du 20h, David, on tient à vous remercier. 359 numéros de l'œil ensemble.
Bonne route à vous.
Voilà, les journalistes qui fabriquent les reportages l'ont remercié. Puis, à 20h25, emmené par Étienne Lénart, l'un des directeurs adjoints de la rédaction de France 2, qui a interrompu le journal comme ceci.
Bonsoir à tous. Bonsoir David et pardon d'interrompre le cours normal de ce journal.
Ce fut au tour des chefs de service de venir remercier et féliciter en plateau leur présentateur. À 20h35, depuis la régie, cette fois c'est la rédactrice en chef du 20h, Agnès Varamian, qui a dit un mot.
Mesdames, messieurs, pour ce journal si singulier, nous souhaitions vous laisser découvrir les coulisses de l'information. Alors nous voici dans la régie, d'où nous avons travaillé à vos côtés, David, partagez votre passion de l'information.
Avant qu'à 20h39 précise, toute la rédaction n'envahisse le plateau pour entourer David Pujadas et l'applaudir très longuement. Autrement dit, hier, des journalistes aux rédacteurs en chef, de ceux qui dirigent la rédaction à ceux qui pilotent la régie, tout le monde est venu montrer physiquement son soutien à David Pujadas. Ce qui revenait aussi à adresser à la présidence de France Télévisions un message, on ne peut plus clair, de désapprobation. Une fronde totalement inenvisageable, donc, sur une chaîne privée. Du reste, comme pour mieux souligner le message et bien appuyer le bras d'honneur, l'équipe du 20h n'a pas hésité à rediffuser cette petite phrase que Fabrice Lucchini avait dite sur le plateau du journal.
Je vous le dis honnêtement, France 2 doit être fière de vous. Vous faites un journal admirable.
À bon entendeur, salut. Voilà donc pour ce qui est du contraste et pour le gâchis maintenant. Eh bien, je dois vous dire, Sonia, qu'en entendant Pujadas dire ça...
C'est le dernier journal que j'aurais eu l'honneur de vous présenter. Ce n'est pas ma décision, ce n'est pas mon choix, mais la route s'arrête.
Puis en le revoyant avec Barack Obama, avec Poutine, en Crimée, en Iran, où entamé son interview de Bachar el-Assad en ces termes.
Je voudrais commencer cette interview sans détour.
Est-ce que la démocratie en Syrie est un objectif pour vous ?
Non. Eh ben, je me suis dit qu'il était bon, Pujadas. Et je me suis demandé dans quel esprit de grand stratège avait bien pu germer l'idée de foutre dehors un type qui fabriquait un journal de qualité, qui fonctionnait en audience et qui était à ce point apprécié de son équipe. Je me suis demandé sur quel hôtel on l'avait sacrifié et surtout dans quelle autre boutique on aurait pu virer un cadre expérimenté qui fabrique un produit performant, le remplacer par une femme qui présente elle aussi une émission qui marche, en prenant donc le risque de déstabiliser non pas un, mais deux programmes de France Télévisions qui rencontrent le succès alors que tant d'autres ressemblent à des accidents industriels. Alors voilà, hier soir, Pujadas a eu droit à 20 minutes d'hommage et à deux longues minutes d'applaudissements. En guise de conclusion, j'aimerais donc juste poser ici une question, combien de temps et par qui ceux qui viennent de virer Pujadas seront-ils applaudis lorsque viendra leur tour de quitter France Télé ?
Et le contraste, moi, j'ai trouvé saisissant par rapport au départ de PPDA et de Claire Chazal, c'est que eux, à l'antenne, ils ont réglé leur compte. Absolument. À eux, avec la direction qui les virait. Mmh. Pujadas, il a dit un mot très fort sur ce que c'est que le journalisme et sur ce que c'est que de faire de l'information et se battre pour cela.
Il a souhaité bonne chance à Anne-Sophie Lapix.
Ouais, ce qui est quand même d'une grande, grande classe. Merci. Absolument. Bruno, alors, on a un gagnant, c'était super dur, mais qui a répondu à une vitesse absolument folle. Il s'appelle Pascal. Bravo Pascal, vous avez reconnu.
Bonjour à tous, c'est Fréquence Moum. Comme son nom l'indique, cette émission est à l'écoute des enfants.
William Lémergie n'a pas été, lui aussi, qu'un visage de France 2, mais une voix de France Inter. Fréquence Moum. Quant à François Droubel, compositeur, il fut aussi celui de la musique du Vieux Fusil, vous vous en souvenez, ou de Chapi Chapeau, ça moi je m'en souviens. Bisous. Très bien.
L'instant M avec Sonia De Villers.
Allez, notre invitée ce matin s'appelle Flore Vasseur. Elle est journaliste, romancière, documentariste. Son reportage sera diffusé le 10 juin à minuit. Ça fait tard, mais heureusement, il y a Arte plus 7. Voilà, pour pouvoir le revoir. Il est un peu court à mon goût, car le sujet est très ample, très vaste, très complexe. Mais au moins, il permet de réfléchir à ces questions-là. Et finalement, c'est pas si souvent qu'on prend la peine de réfléchir à ces questions-là. Vous êtes entré en contact avec Edward Snowden. Comment êtes-vous entré en contact avec Edward Snowden, Flore Vasseur?
Alors, c'est une rencontre entre Edward Snowden, Birgitta Jonsdottir et Larry Lessig.
Oui, mais d'abord, oui, non, mais Edward Snowden.
Oui, mais vous n'allez pas directement comme ça voir Edward Snowden. C'est juste pour ça que je vous explique ça. En fait, moi, ça fait longtemps que je travaille sur Larry Lessig et Birgitta Jonsdottir. J'ai fait différents papiers et travaux avec eux. Et donc, je pense qu'il y a un principe de confiance entre eux et moi. Et donc, quand j'ai pris contact avec Edward Snowden, je lui ai pas dit bonjour, je voudrais faire une interview de vous, comme il fait à peu près tous les jours par Skype à quelqu'un. C'est bonjour, je voudrais venir avec Birgitta et Larry vous voir à Moscou pour avoir une conversation qui n'a lieu nulle part sur la démocratie, c'est-à-dire pas nécessairement sur les sujets sur lesquels on vous interroge tout le temps, qui sont la surveillance de masse, qui pour moi est un symptôme d'un problème bien plus important, qui est celui de la question de la démocratie aujourd'hui.
Pour lui aussi, manifestement. Voilà. Ce que je voudrais, c'est simplement que vous nous présentiez du coup ces deux
Birgitta et Larry.
Ces deux interlocuteurs.
Bien sûr. Alors Birgitta Jonsdottir est une punk autodidacte, députée.
Sacré personnage.
Députée depuis 2010. Elle est rentrée en politique à la faveur de la crise des subprimes, en politique qui a balayé les gouvernements en place et la classe politique pour un petit temps, mais du coup permis à plein de gens nouveaux de rentrer en politique, dont Birgitta. Elle a fondé différents partis politiques, dont en 2013 le parti Pirate, qui est à son deuxième mandat et qui aujourd'hui a 10 députés sur 63. Elle a failli être première ministre d'Islande. Elle a eu un mandat pour former le gouvernement et elle n'a pas réussi à former une coalition. Larry Lessig est un professeur de droit à Harvard, sérieux parmi les sérieux, constitutionnaliste fou.
C'est ça, de très très haut niveau.
Dirigeant
un labo de recherche qui travaille sur les questions de la corruption. Absolument. Et des rapports entre l'argent et la politique.
Voilà, et qui est un homme qui, après avoir essayé de nous convaincre sur le problème de l'influence de l'argent en politique avec des livres, des cours, des conférences, et une star du circuit international des confs, a décidé de rentrer lui-même en politique, a arraché son costume de grand professeur et est devenu candidat à la présidentielle américaine. Personne n'en a entendu parler, parce que le Parti démocrate a bloqué sa candidature pour pas qu'il fasse de l'ombre à Hillary et à Sanders, et pour que cette question-là, qui est quand même juste le cœur du problème, l'influence de l'argent en politique, enfin, on voit où ça nous mène aujourd'hui, n'est pas de place dans les débats télévisés. Enfin, c'est quand même juste
Alors,
dingue.
Je vais vous faire écouter un tout petit extrait du film, tout simplement parce que ce film est en anglais sous-titré, donc en radio, c'est difficile. Mais je voudrais quand même qu'on entende la voix d'Edward Snowden, parce que je voudrais que vous nous parliez de ce personnage. Pour ceux qui n'ont jamais vu physiquement à l'écran, il n'est pas forcément ce qu'on imagine.
We share a commonality of values. We can construct a system of incentives that is blind to class and aware only of our humanity.
Edward Snowden a déjà fait l'objet d'un film documentaire qui s'appelle Citizen 4, qui a été réalisé par Laura Poitras, qui avait filmé au fur et à mesure la façon dont Snowden se retrouve à Hong Kong et révèle cette masse d'informations très vertigineuse qu'il avait amené avec lui un journaliste qui s'appelle Glenn Greenwald. Et puis déjà à l'époque, on était très frappés parce que on voit un jeune homme très posé, très sensé, très simple, très sympathique, très bien dans ses pompes, même s'il vivait un moment très difficile, pas un être sulfureux, bizarre, douteux, etc. Vous le retrouvez 5 ans après, vous l'avez trouvé comment ?
Moi, je peux que souscrire à ce que vous avez dit. Moi, j'ai été frappée par son humilité, sa gentillesse. On est resté quand même 7 heures dans une chambre d'hôtel qui est plus petite que ce studio. En 7 heures, vous avez le temps d'avoir un petit geste d'agacement, d'avoir... Il y a des techniciens, il y a du stress, on a un peu peur, on ne sait pas ce qu'on fait, moi-même je suis speed.
Mais en plus,
et
il vous l'a dit,
jamais,
il avait envie de tout sauf de vivre en Russie.
Ouais.
Et il avait travaillé pour la CIA, il avait travaillé pour la NSA. La Russie, c'était la cible de tir, c'était le dernier pays où il avait envie de se retrouver. Ouais. Bon, il s'est retrouvé coincé en exil en Russie et puis finalement... La Russie lui a accordé un permis de séjour, mais il vit loin de tout ce qu'il aimait.
Je crois que, je ne sais pas, il vit loin de tout ce qu'il aimait. Alors, il y a sa compagne qui vit et qui l'a rejoint en Russie, qui, j'imagine, extrêmement important pour chacun de nous, mais aussi pour lui. Et surtout, c'est quelqu'un qui a une force mentale. Au-delà de l'intelligence qu'on a pu percevoir, mais vraiment d'une force mentale et d'une humanité que moi je soupçonnais pas en fait. Je crois que j'avais l'intuition à force de l'écouter d'un type d'une solidité exceptionnel. Et notamment en regardant une interview qu'il a faite avec Cathy Couric, 1h30. Elle, c'est une journaliste, très grande journaliste américaine, qui n'est pas du tout de son bord. Et elle l'assassine de questions pendant 1h30 dans un face-à-face comme ça. Et il n'est jamais impoli. Il ne sort jamais de ses gonds. Il est très calme. Il lui répond de façon extrêmement intelligente, même avec un petit geste d'humour du style... Et je trouve ça sublime.
Et justement,
en fait,
c'est vers là que s'oriente cette discussion entre vos trois protagonistes. C'est-à-dire que il le dit très très simplement et assez vite. C'est-à-dire, oui, en effet, ça n'est pas une question de surveillance de masse. Mmh. C'est ce que les médias ont retenu, et c'est dommage. Il le dit très vite. La Maison Blanche l'a dit elle-même. La surveillance n'a jamais empêché la moindre attaque terroriste. Donc, ce programme ne concerne pas le terrorisme. C'est une grande manipulation diplomatique. C'est de l'espionnage industriel. C'est de l'influence économique. Donc, allons au-delà. Là, et permettons aux citoyens de se réapproprier leur démocratie. Et c'est là qu'on voit que ces trois personnages qui, finalement, n'ont rien à voir les uns avec les autres dans la vie, finalement, se battent pour la même chose chacun dans leur pays et chacun à leur manière.
En fait, ils ont tout à voir. C'est-à-dire qu'ils sont tous sur cette même thématique de déliquescence de la démocratie, avec l'une qui essaye de créer des nouvelles formes de représentativité du citoyen au pouvoir, l'autre qui essaye de remettre l'intérêt général au centre de la décision politique, et le troisième qui dit, attention, vous avez des outils, il y a des outils de contrôle, d'espionnage économique, vous en avez parlé, mais surtout de contrôle social. Big Brother, il n'est pas uniquement là pour faire de l'espionnage économique, il est là pour pouvoir dire, attention, la population évolue sur ces idées-là, il y a tel et tel et tel personnage qui potentiellement à 5, 10, 15 ans vont devenir des grands activistes ou des personnes qui peuvent faire basculer les choses, ça s'appelle les logiciels prédictifs.
C'est ça.
Il y en a partout, personne n'en parle, j'ai pas eu le temps de faire un film dessus, mais c'est quand même le sujet. Quoi.
Oui, c'est le sujet. C'est-à-dire que le tout n'est pas d'accumuler des données, le tout, c'est qu'est-ce qu'on en fait
après.
C'est ça,
qu'est-ce qui se passe dans la machine à laver, quoi. Et il n'y a aucun débat sur ce qu'on lâche à chaque fois qu'on achète quelque chose, qu'on accepte une appli.
Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'Edward Snowden en refait une question politique, c'est-à-dire qu'il dit le problème c'est pas la surveillance, c'est que cette surveillance s'est faite sans qu'aucune loi ne soit votée, sans qu'aucun citoyen n'ait pu ni en avoir conscience, ni le savoir, ni donner son avis. Et c'est là qu'ils se rejoignent tous les trois, c'est-à-dire vraiment ce droit à l'autodétermination des peuples.
Absolument, et le fait que ce droit à l'autodétermination est probablement absolument écrasé par l'influence de l'argent. Pourquoi on n'a pas ce débat aujourd'hui? Parce que le business de la surveillance, c'est 50 milliards par an. Ça veut dire...
Seulement l'argent, Fleur Vasseur, parce que là-dessus, Edward Snowden a aussi un discours très simple et très clair. Il y a une stratégie de la peur
qui est manifestement... Elle sert à quoi?
Elle sert à quoi?
Voilà, non mais oui. Je veux dire...
Elle sert à faire que surtout, on ne change rien, il le dit assez simple. Oui, mais... Et même Larry Lessig le dit, c'est-à-dire que tout citoyen qui s'engage... a l'impression qu'il a quelque chose à perdre. Et on a tous nos petites vies. Et on a tous quelque chose à perdre dans nos petites vies.
Non mais la stratégie de la peur, vous avez absolument raison. La question c'est à quoi est-ce qu'elle sert? Qui tient le grand stylo? Qui gouverne? Pourquoi cet état de fait existe? Alors c'est pas le sujet du film, mais c'est le sujet qu'on devrait tous, absolument tous, se poser. Qui tient nos chaînes? Ces outils-là, ces technologies-là, la technologie n'est pas le problème. C'est l'utilisation qu'on en fait qui
est
le problème.
Quand je vous disais que c'était un film très politique.
La Silicon Valley, à chaque fois qu'elle développe une appli, elle fait une appli grand public et elle fait une appli militaire. Et les applis militaires, aujourd'hui, elles gagnent. Ben oui, c'est beaucoup plus rentable.
Meeting Snowden, ça veut dire en rencontrant Edward Snowden. Merci Fleur Vasseur. 10 juin à minuit ou à revoir sur le site. Si à cette heure-là, vous êtes déjà couché sur le site Arte+7. C'est la fin de l'émission. Violaine Baller, Edouane Tella, Marion Philippe, Mila Chansarel, c'est ma super super équipe avec Dimitri Gronov ce matin à la technique. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia De Villers.
Alors, what's up today?
Alors, avez-vous parfois l'envie de fuir le fracas du monde, de disparaître quelques jours, de vous mettre en vacances de vous-même, de faire la morte socialement pour souffler, vous régénérer?
Ben, je réfléchis, je ne crois pas.
Bon, bah écoutez, si c'est votre cas, derrière le transistor, n'hésitez pas à appeler au 01 45 24 7000.